Bienvenue si vous nous rejoignez ce soir pour m'accompagner Ségolène Royal, Perico Légas, Olivier Vial, Christophe Barbier et nous a rejoint sur ce plateau Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation au magazine Marianne. On va parler, on va parler des suites de l'affaire du petit Émile avec cette exclusivité BFM TV. On va tout de suite aller retrouver Maxime Brandstetter, notre journaliste. Vous êtes dans le hameau du Auvernais. C'est vous qui avez réussi avec Clément Granon à recueillir le témoignage de la randonneuse qui a retrouvé le crâne du petit Émile. Elle a souhaité conserver l'anonymat. On ne la verra pas, on ne l'entendra pas, mais elle s'est confiée longuement à vous. On va l'appeler Manon, cette randonneuse. On a quand même quelques billes, quelques informations sur son profil, Maxime.
Oui, on sait que c'est une femme d'une soixantaine d'années. Elle est retraitée, elle vit seule, elle est veuve et elle se définit elle-même comme un peu solitaire. Elle aime bien vivre seule, sans forcément recevoir de visites. Elle vit essentiellement dans ses livres et elle aime aussi beaucoup la région puisqu'elle se promène beaucoup. Elle est assez sportive, elle est capable d'aller assez haut et de se promener assez loin. Enfin, pour terminer son profil, elle est aussi extrêmement croyante. Au cours du moment qu'on a passé avec elle, Dieu revenait beaucoup, elle en parlait beaucoup et forcément, ça l'influence. Et donc, cette femme qui est bien la randonneuse ou la promeneuse au choix qui est tombée sur le crâne du petit Émile.
Vous a raconté, Maxime Brandstetter, comment elle était tombée donc sur le crâne du petit Émile. Événement, élément qui a donc fait avancer grandement l'enquête. Qu'est-ce qu'elle vous a dit précisément?
Eh bien, elle nous raconte que ce jour-là, elle hésite à partir se promener. Je vous l'ai dit, hein, elle aime beaucoup se balader. Et ce jour-là, elle hésite parce qu'il fait mauvais temps, explique-t-elle. Il pleut, il y a du vent. Et puis, elle hésite, elle enfile son pantalon de randonnée, elle l'enlève. Et puis, finalement, elle se décide, elle part vers midi. Alors, elle part toujours se promener sans téléphone et sans montre parce qu'elle aime comme ça être en dehors du temps. Elle entend la cloche de l'église qui lui indique qu'il est midi. Et donc, elle décide du chemin qu'elle va prendre. Vous l'en doutez, elle en connaît beaucoup des chemins. Et elle pense à un chemin qu'elle n'a pas parcouru, qu'elle n'a pas exploré depuis environ un mois et demi, se souvient-elle. Elle part sur ce chemin, elle avance pendant un certain temps, elle ne sait pas exactement combien. Et à un moment donné, là, au milieu du chemin, elle ne pouvait pas passer à côté, nous dit-elle. Elle voit le crâne d'Émile, elle voit ce crâne tout blanc, tout propre, nous dit-elle. Et immédiatement, elle comprend que c'est le crâne du petit Émile.
Elle comprend donc que c'est le crâne du petit Émile. Tout ça, elle vous l'a raconté. La découverte, le coup de fil aux gendarmes, ces longues heures d'audition par les forces de l'ordre. Je rappelle que c'est vous, Maxime Brandstetter, avec Clément Granon, qui avez recueilli ce témoignage de cette femme qu'on appelle donc Manon. Ce que l'on découvre dans ce récit, c'est qu'elle a été longuement auditionnée. 9 heures, c'est ça, devant la police?
Oui, elle a été auditionnée à 9h. Il faut dire qu'elle, comme on dit, elle découvre le crâne. Elle rentre tant bien que mal, avec extrêmement affectée émotionnellement. Elle dit que, pareil, elle entend la cloche. Elle a l'impression qu'elle arrive chez elle à 14h. Immédiatement, elle appelle la gendarme en disant « Voilà, venez, j'ai trouvé le crâne. » On leur répond « Ne bougez pas, on arrive. » Elle leur donne quand même rendez-vous au bout de sa rue parce qu'elle ne veut pas que les voisins voient les gendarmes devant chez elle. Et dès qu'ils arrivent, elle leur donne le crâne. Ils le mesurent immédiatement. Et il l'emmène avec elle, il l'emmène à la gendarmerie. Ils vont l'auditionner pendant 9 heures. Elle ne rentrera chez elle qu'à minuit. Une audition qui comprend aussi le moment où ils vont la ramener sur le chemin, lui demander de montrer exactement où elle l'a trouvée, un endroit que les gendarmes vont immédiatement sécuriser. Voilà, 9 heures d'audition qui termine à minuit pour elle. Elle rentre chez elle se coucher, mais ce n'est pas fini. Le lendemain matin, elle sera aussi perquisitionnée à sa grande surprise. Les gendarmes qui ont notamment pris tout son matériel électronique, sans doute pour l'analyser, et qui lui ont rendu quelques jours plus tard.
Nous, Maxime, une question à Laurent Valdiguier. Auditionné par les gendarmes pendant 9 heures, perquisitionné le lendemain, ça veut dire qu'elle était considérée, en tout cas à ce moment-là, comme une suspecte?
Alors, dans les 9 heures d'audition, il y a le retour sur les lieux avec les gendarmes sur le terrain pour leur montrer exactement, reconstituer, retrouver le sapin qu'elle avait repéré, couché, pour leur dire où était le crâne qu'elle a trouvé. Les gendarmes ont sécurisé la zone. On sait qu'ils l'ont prise au sérieux tout de suite, puisque le crâne du petit Émile a pris deux hélicoptères et était le soir même à l'IRCGN à Pontoise. Et dans la nuit, la machine de l'IRCGN, le séquenceur ADN, a établi formellement qu'il s'agissait bien du crâne du petit Émile. Donc le lendemain matin, après tout ça, après ce maelstrom émotionnel pour elle qu'elle a raconté toute la journée à Maxime, là les gendarmes sont venus perquisitionner. C'était pas prévu, hein. C'était une surprise, évidemment. Mais elle l'a bien compris parce que c'était une façon aussi pour les gendarmes de fermer la porte sur l'hypothèse éventuelle. Vous savez qu'ils envisagent toujours tout.
C'était un passage obligé.
Voilà. Ouais. Est-ce qu'après tout, elle n'aurait pas pu jouer un rôle dans l'enlèvement, la séquestration et la remise du crâne du petit Émile à cet endroit-là. Il fallait bien envisager l'hypothèse. Et évidemment, à l'évidence, les gendarmes ont exclu tout ça. Compte tenu de l'audition.
Et ils lui ont rendu d'ailleurs toutes ses affaires.
Ils lui ont rendu d'ailleurs toutes ses affaires.
Elle est évidemment hors de cause. Maxime Brandstetter, vous êtes toujours avec nous. Une dernière question. Comment vous l'avez senti? On est deux semaines après cette découverte. Elle est toujours très, très éprouvée.
Oui, elle est très éprouvée. Alors même si elle nous dit plus ou moins le contraire, comme je vous le disais au début, elle est très croyante et elle se réfugie derrière sa foi en disant que ça va, voilà, elle prend ça avec foi quelque part. Et mais on sent quand même, lorsqu'on lui demande de raconter, lorsqu'elle évoque le crâne, elle a souvent les larmes aux yeux. On sent qu'elle a une émotion qu'elle n'arrive pas à dissimuler. Ça a été dit dans le reportage, elle nous dit jamais le crâne, elle dit la chose. Et quand on lui demande pourquoi, elle dit parce que prononcer le crâne, pour moi, c'est trop dur parce que ça me renvoie l'image. C'est évoqué aussi dans le reportage, elle le porte à bout de bras parce que lorsqu'elle le sent, la forme toucher son corps, ça la terrifie. C'est quelque chose qui a été très difficile pour elle. Pendant tout ce moment-là, elle a alterné, elle pleurait beaucoup, puis elle essayait de se calmer parce qu'elle se disait, voilà, il faut que je l'amène aux gendarmes, c'est le moyen de preuve que je dois donner aux gendarmes. D'ailleurs, peut-être un élément important sur lequel il faut s'arrêter. On s'est beaucoup demandé, mais comment ça se fait qu'elle déplace ce crâne? Pourquoi ne l'a-t-elle pas laissé à cet endroit-là? Eh bien, l'explication nous l'a donnée. On vous l'a dit, elle est partie sans téléphone. Elle n'avait pas moyen de contacter les gendarmes. Et elle savait que par ce temps, par la montagne, il y avait un gros risque, si elle laissait le crâne, de ne jamais le retrouver. Donc elle a décidé de le mettre dans des sacs plastiques, de le prendre elle-même dans des sacs plastiques en essayant de ne pas le toucher, de le ramener, d'appeler les gendarmes. Tout ça, évidemment, extrêmement éprouvant. Et aujourd'hui, elle n'est toujours pas retournée se promener parce que elle a besoin de se reposer physiquement et mentalement.
Merci beaucoup, Maxime Brandstetter, avec Clément Granon.